France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, rendez-vous avec Isme. Nous revenons sur une idée, un mouvement, une tendance, un isme, un thème pour mieux comprendre les termes, les mots du débat politique d'aujourd'hui.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, dernier épisode d'enquête de trotskisme, trotskisme et gauchisme.
Nos oppositions de gauche restons fidèlement dévouées à l'international communiste.
Je me trouve dans une grande pièce avec au fond Trotsky qui se lève. J'ai cru que c'était la révolution d'octobre qui se lève à tout d'un coup.
Les trotskistes sont des révolutionnaires. Trotsky était un révolutionnaire et pas un gauchiste.
Au quatrième, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes.
Je pense à l'affirmation prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Eh bien, vous voyez ?
J'ai joué dans un film qui s'appelle « Portrait d'une jeune fille en feu ». Et aujourd'hui, vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu.
Si vous lisez ce qu'a écrit Trotsky sur le stalinisme, la dégénérescence de l'Union soviétique, vous comprenez, y compris Poutine aujourd'hui.
Le trotskisme après 68 n'a plus beaucoup de rapport avec Léon Trotsky, si ce n'est la commune détestation du capitalisme triomphant et du stalinisme mourant. Mais le libéralisme est venu faucher une partie des trotskistes qui se sont bien intégrés dans le monde affairiste des années 80. Leur créativité, leur agilité intellectuelle a servi l'industrie de la pub et de la communication. La contre-culture gauchiste est devenue dominante. Dans ce dernier numéro d'enquête de trotskisme, nous allons nous intéresser à la queue de comète du trotskisme après 68 et à l'étonnante plasticité de ceux qui sont passés par ce courant de pensée pour se fondre dans la société contemporaine, se faire ingérer par elle, le capitalisme, la république, la social-démocratie, mais aussi lui apporter une partie de ses idéaux, de ses réflexes anti-autoritaires. Les trotskistes ont gagné une partie de la bataille culturelle, mais n'ont jamais pu, sans doute pas voulu non plus, faire la révolution. Le trotskisme aura fourni à plusieurs générations de jeunes Français, et pas seulement des étudiants ou des intellectuels, de quoi renouveler et alimenter cet idéal révolutionnaire qui était, au 19e siècle et au début du 20e, irrigué par les idées républicaines. Pour évoquer le trotskisme post-68, nous allons retrouver quelques-uns des protagonistes de nos trois premières émissions. Didier Lesky, ancien de la LCR, devenu préfet chevènementiste. Benjamin Stora, qui fut permanent à l'OCI et qui est maintenant un éminent historien, le professeur d'histoire Pierre-François Gron, Laurence Rossignol, ancienne de la LCR, qui fut l'une des fondatrices de SOS Racisme et qui nous a reçus sous les dorures de son bureau de vice-présidence du Sénat. Mais aussi Jeannette Abel, figure du guévaro-trotskisme. Didier Lesky, des trotskistes se sont présentés pour la première fois à l'élection présidentielle en 1969, un an après mai 68, pour essayer de surfer sur la vague révolutionnaire de 68. Ça a été un échec, c'était Alain Krivine. On l'écoute lors de sa campagne officielle, interrogé par Henri Weber, futur sénateur socialiste, mais à l'époque compagnon de Alain Krivine à la LCR.
Mai 68 et la présente campagne électorale ont révélé l'existence en France d'un courant révolutionnaire fort de plusieurs centaines de milliers de jeunes et de travailleurs. Que représente ce courant ?
Ce courant représente une force réelle, on l'a vu lors des événements de l'année dernière, mais il ne faut se faire aucune illusion, il ne s'exprimera que de façon tout à fait déformée à travers le scrutin.
Didier Lesky, je vois que cette interview, ce petit passage, cet extrait vous amuse. Il n'y croit pas du tout à cette élection.
Non, il y croit d'autant moins qu'il faut se souvenir qu'un des mots d'ordre des étudiants en mai-juin 68, c'est « élection piège à con ». Et donc, il est là à la télévision et en gros, il dit « bah oui, les élections, c'est un piège à con. La seule chose qui compte, c'est faire une insurrection. » Et c'est pour ça, du reste, que nous, Ligue communiste, nous préparons à organiser cette insurrection. Et du reste, elle va être préparée activement, si j'ose dire, même si elle ne va jamais aboutir. L'essentiel est de faire entendre un message tout en dénonçant le Parti communiste qui apparaît comme un obstacle par rapport à l'échéance révolutionnaire puisque il est l'héritier du stalinisme et en même temps il est à la fois révisionniste, réformiste, enfin voilà, c'est ça.
Mais paradoxalement, Didier Leski, les trotskistes ont raté leur coup en 68 parce que finalement, alors que c'était une révolution d'ouverture sur la société pour casser les anciennes hiérarchies de la société, les trotskistes auraient pu imprégner ce mouvement, ils l'ont à peine fait. Finalement, c'est le PC qui a négocié à Grenelle. Et puis, d'une certaine façon, c'est une sorte de gauchisme sociétal qui s'est répandu dans la société sans les appareils trotskistes.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord, des organisations comme la Ligue communiste vont avoir des adhésions importantes. Et la Ligue communiste va même avoir un quotidien. Rouge va être quotidien. Le journal.
Tout ça reste minoritaire.
Très
minoritaire, enfin, même
minoritaire.
À gauche.
Dans la jeunesse.
Influent, mais minoritaire.
Dans la jeunesse, il y a eu un moment où les mouvements trotskistes sont culturellement, intellectuellement, politiquement majoritaires. Quand j'étais lycéen, eh bien, il n'y avait pas une assemblée générale ou une coordination lycéenne, comme on disait, qui ne soit pas dominée par les militants d'extrême gauche. Les jeunesses communistes étaient tout le temps mis en minorité. C'était ça la réalité. Alors, sur la longue durée.
C'est peut-être ça, l'espèce d'illusion d'optique. Trotskiste, vous étiez important dans les facs, important en tribune, c'est vous qui parliez le mieux, les mieux formés, mais dans la société finalement.
Pas uniquement, vous ne pouvez pas voir l'importance et la structuration qu'a eu le MLAC, par exemple, le mouvement de lutte pour l'avortement, la contraception, si vous ne voyez pas à l'intérieur de ces mouvements des figures comme Maya Surdutz, qui était passée par Cuba, la JCR, et qui fait partie de ceux qui ont structuré.
Oui, ils ont eu de l'influence.
Le mouvement féministe, la diffusion du féminisme dans les entreprises avec des organisations comme Femmes Travailleuses en Lutte. On parle aujourd'hui beaucoup du genre. Tout le combat autour de la reconnaissance du droit des homosexuels. Eh bien, on a eu beaucoup de militants trotskistes qui étaient là-dedans. Alors, ils étaient, c'est vrai, beaucoup du côté de la LCR, je suis d'accord, par rapport à d'autres.
Jeannette Abel, politologue spécialiste de l'Amérique latine, a été l'une des figures de la LCR qui a fait partager à ses camarades le romantisme des révolutions cubaines et guévaristes. La fascination pour la geste révolutionnaire d'Amérique du Sud a été l'un des moteurs de popularité du trotskisme dans la jeunesse de cette époque. Même si Castro et Guevara ne se disent pas à proprement parler trotskistes, d'ailleurs les trotskistes français étaient divisés sur ces expériences, rencontres avec Jeannette Abel. Jeannette Abel, dans votre jeunesse, vous êtes partie en Amérique du Sud au moment des révolutions. Qui étiez-vous à ce moment-là et pourquoi êtes-vous partie?
Je suis partie à Cuba d'abord et puis ensuite en Amérique latine. Et j'étais membre du Bureau national de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Nous étions à la veille de l'expulsion par le Parti communiste du secteur lettres, qui était dans l'opposition à ce parti, à l'Union des étudiants communistes. La guerre d'Algérie, c'était fini. Le mouvement de libération, il faut comprendre qu'on est dans une époque où le mouvement de libération nationale des pays du Sud, c'est les pays du tiers-monde, est considérable. Il y a le Vietnam, bon, l'Algérie c'est fini, et la révolution cubaine, elle incarne un troisième. Alors moi j'ai commis un article dans Avant-Garde Jeunesse, qui était le journal plus tard de la jeunesse communiste révolutionnaire, un article qui parlait de la troisième tendance internationale. Pourquoi? Parce que on avait, nous, une opposition au stalinisme terrible, hein. Il y avait eu le rapport Khrouchtchev. Il y a à l'Union des étudiants communistes aussi des débats sur ça. Mais il y a un autre courant qui dit ça n'est pas seulement ça, c'est le stalinisme a été en fait un courant qui n'a pas été véritablement un courant révolutionnaire à l'échelle internationale.
Qui a tué la révolution internationale.
Voilà. À côté de ça, surgit donc à partir avec la révolution cubaine, avec Fidel Castro et particulièrement Che Guevara. À ce moment-là, je suis restée pendant plusieurs années, pendant 3 ans à Cuba. Ce que Cuba incarne dans cette situation internationale compliquée où vous avez, on le dit maintenant, les gens ne se rappellent plus, un conflit sino-soviétique pour l'hégémonie au sein du camp socialiste, entre guillemets socialiste. Mais bon, dans ce conflit apparaît une troisième position qui est incarnée par la direction cubaine. Elle apparaît comme une position à la fois critique, très critique, la position traditionnelle du PC, du Parti soviétique, etc., mais critique aussi de la position chinoise. Et donc, elle apparaît comme un troisième courant, et j'ai donc, moi, écrit dans le journal de la JCR un article qui s'appelait « Une troisième tendance internationale », dont je n'ose pas dire qu'il incluait la Corée du Nord à ce moment-là. Une grave erreur, mais bon. Mais c'était en fait surtout la lecture de la révolution cubaine, et en particulier une identification avec, on peut dire, Fidel Castro, mais surtout Guevara. Et alors, il faut comprendre que ce que Guevara incarne, qui était un intellectuel, un théoricien, etc., c'est une perspective révolutionnaire, nouvelle, démocratique, totalement différente de ce qu'on connaît, parce que nous, le petit livre rouge, Mao Tse-Tung, etc., puis après la révolution culturelle, ça ne nous plaisait pas du tout non plus. L'horreur qu'avait été l'Union soviétique avec Staline et Cuba, bien, ça apparaît à ce moment-là, la révolution cubaine, comme au contraire une synthèse de nos préoccupations avec des mobilisations populaires, enfin, les premières années, les années 60, et puis hein, jusqu'à la soviétisation au début des années 70, la révolution cubaine, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est bon, une mobilisation, une insurrection populaire, une révolution qui a une adhésion comme probablement il n'y a jamais eu dans les révolutions précédentes du XXe siècle. Par contre, le courant trotskiste à Cuba et en Amérique latine est une catastrophe parce qu'il est dirigé par un personnage qui s'appelle Posadas, qui est une espèce de stratège fou. Et pour donner un seul exemple, qui, au moment de la crise des fusées en 1962 à Cuba, avait préconisé la guerre nucléaire. Par contre, quand je reviens en France et que je retrouve l'UEC, il y a une identification, en tous les cas, je retrouve dans le courant qui est dirigé par Alain Krivine, pour dire les choses.
Le courant trotskiste d'Alain Krivine, celui de la JCR et de la LCR plus tard, lui s'identifie parfaitement, contrairement à l'OCI de Lambert, ce qui se passe en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
Oui, je peux vous dire que le désaccord avec l'OCI est total, parce qu'eux considèrent que cette révolution est une révolution petite bourgeoise. Ils la critiquent totalement, critiquent Castro, ils ne comprennent rien à toute cette histoire. À partir de ce moment-là, d'abord, on est identifié, la JCR, comme guévariste. Hein. Pas seulement moi. Moi, entre-temps, j'ai fait des allers-retours, d'ailleurs. J'ai ramené des textes que personne n'avait publiés. Et il y a un personnage qui joue un rôle très important dans cette histoire, qui va adhérer à l'LCR aussi, qui s'appelle François Maspero. Et qui va publier tout ça. Donc, si vous voulez, ce qui est peut-être difficile à comprendre maintenant, il y a quelque chose qui apparaît dans cette JCR, dans cette LCR, qui va être un succès en termes numériques, en termes d'organisation, qui est différent de l'image traditionnelle du trotskisme et qui va faire en sorte qu'il y a quand même, on va être très nombreux là-dedans. Et, je ne sais pas, il y a eu une quantité d'artistes, etc., qui vont adhérer à la Ligue communiste.
Alors, ceux de l'OCI, l'autre branche du trotskisme, parlent de gauchisme.
Oui, mais enfin bon, eux, si vous voulez, en fait, ils ont une tradition, je m'excuse de dire comme ça, une tradition épouvantable, non démocratique à l'intérieur, des pratiques de l'entrisme. D'ailleurs, ensuite, ils se sont fait de l'entrisme dans la LCR avec des méthodes absolument inadmissibles.
Par exemple, pour l'Amérique latine, je parle de mon organisation, on était très sévère sur Che Guevara.
Benjamin Stora, à l'époque membre de l'OCI, lambertiste.
Nous, on était contre. On disait Che Guevara, il est mort de ses fautes politiques. Et on était les seuls à le dire secrètement, on pouvait pas le dire publiquement, parce que le capital sympathie de Che Guevara dans la jeunesse à l'époque était immense. Tous les jeunes avaient dans leur chambre le poster du Che, etc. Donc avec beaucoup de complaisance, faut dire la vérité, avec beaucoup de complaisance pour les maquis, pour la lutte armée, ce n'était pas notre cas. Mais entre nous, Lorsqu'on se réunissait, on disait, mais Che Guevara a fait des énormes erreurs politiques. C'est-à-dire, lorsqu'il a monté un maquis en Bolivie, sachant que la paysannerie ne se révolterait jamais, il est mort, victime de sa propre ligne. On se disait ça entre nous. Donc on n'était pas, disons, des adorateurs de la lutte armée, des maquis, de Che Guevara. On était des partisans de ce qu'on appelle, entre guillemets, la politique. C'est-à-dire les mouvements de masse, les grèves, le travail patient. Et on pensait que le reste, c'est une formule de l'époque, c'était des substituts à la révolution. C'est-à-dire des substituts, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller plus vite. Donc il faut être beaucoup plus patient.
Enquête de politique, le trotskisme, dernier épisode, le trotskisme culturel des années 70 et le passage de l'état de trotskiste à ancien trotskiste. Nous en étions à l'influence de l'esprit révolutionnaire sud-américain qui vient revitaliser une partie du mouvement trotskiste. Didier Lesky nous en explique les conséquences sur la vie politique et syndicale française.
Dans le mouvement syndical, on ne peut pas comprendre l'émergence d'un syndicat comme Sud Rail, si on n'a pas cette prégnance. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça n'a pas constitué une alternative politique capable de concurrencer la force politique du programme commun. Puisque on a écouté Alain Krivine, il ne voit pas à ce moment-là que va se constituer cette alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste, le programme commun qui va être conflictuel mais qui va aboutir à la victoire de François Mitterrand en 1981. Et là où il y a un échec du trotskisme, c'est que 1981, c'est pas le Front populaire. Alors que, d'une certaine manière, ils espéraient, et tout le monde espérait, quelque chose comme le Front populaire, d'autant plus qu'en 1977, il y a des élections municipales où il y a des tas de villes en France où les trotskistes font 10-12%, c'est-à-dire déjà ce matelas électoral, mais qui n'est pas un matelas qui suffit à constituer une alternative politique.
On retrouve aujourd'hui des trotskistes un peu partout. Ils sont plus âgés, ils sont au-delà de l'âge mûr maintenant, ils ont plutôt 60-70 ans, au moins, en tout cas ceux des années 60. Et vous, on va prendre votre exemple, c'est intéressant parce que vous étiez militant trotskiste et vous êtes devenu chevènementisme. Alors le chevènementisme aujourd'hui, ça représente la version du socialisme régalien, républicain, sérieux, pas spécialement d'ailleurs ouvert sur les questions sociétales, la figure de Jean-Pierre Chevènement en tout cas. Comment on passe du trotskisme au chevènementisme, Didier Lesky? C'est pas la majorité du genre, d'ailleurs.
Ce n'est pas la majorité du genre, mais encore que au début des années 80, la figure de Jean-Pierre Chevènement, c'est celui qui a rédigé le projet socialiste, celui qui a organisé et milité pour cette alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Et c'est un courant qui est présent au sein de la CGT, avec même des personnalités, des camarades qui sont au bureau confédéral de la CGT.
Alors je renvoie à Enquête de politique,
oui, c'est l'aile gauche
sur le chevènementisme, où d'ailleurs on entend Jean-Pierre Chevènement qui défend l'autogestion. Donc à la limite, là c'est vrai que vous pouvez vous y retrouver.
Voilà. Et il y a au début des années 80 le sentiment de quelque chose qui ne marchera pas. Voilà. Et donc, il faut trouver, si on veut continuer à militer, des lieux qui vous soient congruents avec ce que vous pensez ou avec ce que vous...
Ça vous paraissait solide, ça vous paraissait être une gauche ancrée et solide.
Oui, mais à l'époque, il y a d'autres endroits qui étaient aussi possibles. Je pense au courant popréniste. De Jean Popren. Maintenant, Léon Trotsky, c'était pas un anarchiste. C'était quelqu'un structuré. Il n'était pas loin du pensée régalienne. Et du reste, il l'a prouvé au moment de la Révolution russe.
Donc, et aujourd'hui, Didier Lesky, voilà. Vous êtes préfet. Vous êtes trotskiste, Didier Lesky. Est-ce qu'on peut demander ça à un préfet? On peut, mais est-ce qu'il peut nous répondre?
Alors, déjà jeune, je me définissais comme marxiste révolutionnaire. Vous savez que on ne disait pas trotskiste comme ça parce que il y avait tellement d'épigones de Trotsky que on disait toujours.
Je ne sais pas si ça va rassurer le ministre de l'Intérieur qui est votre chef de tutelle.
Mais indéniablement, je reste très imprégné par toute cette époque et toute ma jeunesse. Je reste très imprégné par une manière d'utiliser le marxisme pour penser. Oui.
Alors on va se demander si le trotskisme c'était mieux avant, avec Aurélie Marciro. Aurélie, bonjour.
C'est la question, c'est y répondre, Thomas.
Non. Aurélie, toutes les semaines, Aurélie nous présente un livre pour aller un petit peu plus loin sur le sujet du jour. Aujourd'hui, Aurélie, vous nous parlez donc d'un livre sorti aux éditions de l'Observatoire, signé du journaliste Laurent David Samama, « Les petits matins rouges, récit d'une trahison ». De quelle trahison, Aurélie ?
Eh bien, une double trahison, Thomas. Sémantique et idéologique. Faible numériquement, ne faisant plus les efforts de formation de ses cadres, se livrant à des compromis mortifères, les partis qui défendaient l'héritage de Trotsky ont muté jusqu'à trahir sa pensée, estime l'auteur. Le changement de nom de la LCR en NPA avait annoncé la couleur, écrit-il, en effaçant les mots « Ligue », communiste et révolution, autrement dit trois puissants vecteurs de sens au profit de nouveaux partis et anticapitalistes, le principal mouvement trotskiste français basculait dans une nouvelle époque, plus policée et dans un nouveau récit moins grandiose. Il existe un monde entre une ligue et un parti, entre le communisme de Marx, Engels, Lénine et Trotsky et l'anticapitalisme fourre-tout de la gauche des années 2000 et 2010, une dilution du sens qui bien sûr n'a pas été sans conséquences.
Quid de ceux qui ont quitté les sphères du trotskisme ?
Eh bien, des allées sans retour expliquées par Henri Weber dans le livre. Quand on n'a jamais été confronté au réel, ni expérimenté les rapports de force et les contraintes objectives, on peut dire à peu près ce qu'on veut, on peut dire le souhaitable. À gauche, il y a toujours des spécialistes dans la définition du souhaitable, mais qui ne se soucient jamais du possible. Il y en a un, Thomas, qui avait bien compris l'intérêt d'avoir ses têtes bien faites avec lui.
C'est François Mitterrand.
Oui, il a parfaitement su les utiliser et récupérer leur goût de l'histoire, leur rhétorique implacable et leur méthode d'agit-prop à son profit. En revanche, il n'est pas certain pour l'auteur qu'il y ait une place aujourd'hui pour, je cite, ces honnêtes continuateurs de l'enseignement de Trotsky, kabbalistes perdus en politique, soucieux de lecture, d'apprentissage et de débats inlassables.
Pourquoi emploie-t-il le mot kabbaliste, Aurélie ?
Eh bien, c'est l'autre fil directeur de l'ouvrage. Ce sont, note l'auteur, des militants juifs issus quasi majoritairement d'Europe centrale et de l'Est qui ont constitué les premiers suiveurs de cette doctrine. Au fil des pages de ce livre, l'hypothèse de la judéité intrinsèque au courant trotskiste se trouvera validée avec force, écrit l'auteur. Alors, pour résumer, Marx et Trotsky ont remplacé le Talmud, mais dans les deux cas, il y a une méthode commune, le questionnement sans fin. Le journaliste raconte également ses enfants de familles juives d'origine polonaise ou russe arrivés en France dans les années 30 qui, après le traumatisme de la Shoah, s'engagent. Les écoles de formation communiste d'abord, puis très rapidement trotskistes, viendront canaliser leur colère, l'aiguiller d'une certaine manière, la transformer en une révolte euphorique contre le racisme et toutes les formes de conservatisme. L'histoire de ce bouillonnement intellectuel des années 60-70 est racontée d'ailleurs dans un documentaire « Nous vengerons nos pères ». Alors on sent dans ce livre, Thomas, une nostalgie de l'époque où dans ces cercles on savait l'importance de l'histoire, de l'étude, de la formation, mais sur l'avenir, l'auteur est pessimiste. De quoi faire mentir la phrase de Victor Serge qui ouvre le livre « De défaite en défaite jusqu'à la victoire finale ». J'imagine que cette phrase vous inspire, Didier Leschi.
Oui, bien sûr, Victor Serge, c'est une figure importante. J'en ai parlé tout à l'heure avec les années 30 et son livre « S'il est minuit dans le siècle ». Bien évidemment, il y a un rapport avec l'histoire juive et la culture juive, avec cette idée par exemple que le monde tient grâce au souffle des enfants qui apprennent, disent les rabbins. Et donc du coup, il y a cette discussion sans fin. On ne peut pas comprendre aussi ce basculement de beaucoup de jeunes issus de familles juives vers le trotskisme, si on n'a pas en tête que c'est le moment aussi où il y a une résurgence de l'antisémitisme en Union soviétique avec le complot dit des blouses blanches qui accuse des médecins d'origine juive de vouloir assassiner Staline sans doute. Trotsky qui était quand même une figure du monde juif, c'est un intellectuel et c'est vrai que ce qui s'est perdu aujourd'hui dans le NPA sans doute, c'est l'idée d'apprendre, cette culture, cette tradition. Il y a un fil qui s'est cassé et c'est pour ça que après il reste des individualités peut-être comme moi, voilà, des trotskistes républicains, puisque vous me demandiez de me définir plus républicain que trotskiste, mais qui n'ont pas oublié qu'ils ont été trotskistes.
Est-ce que je peux vous poser une question plus politique, peut-être même polémique ? On dit souvent, quand on observe l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qu'on y voit la marque de son passage à l'OCI.
Oui, je fais la même analyse. Du reste, lui-même ne s'en cache pas. Et aujourd'hui, une partie de la France insoumise est extrêmement imprégnée d'une culture trotskiste-lambertiste, avec peut-être parfois une mise à distance de la question démocratique au sein du mouvement et qui a été une ligne de fracture au sein du mouvement trotskiste. Et on ne peut pas espérer construire un monde meilleur si déjà, au sein de son organisation, on n'a pas des réflexes minimaux de démocratie interne. Alors, vous me posez la question sur Jean-Luc Mélenchon. Il est issu du trotskisme et d'une certaine manière, il doit y avoir une jouissance chez lui à avoir fait aboutir une partie du programme trotskiste, puisque sa formation politique est beaucoup plus importante que le Parti communiste français ou le Parti Socialiste, ce qui n'est quand même pas rien. Puisque
il a terrassé le stalinisme.
C'est à la fois terrasser le stalinisme et terrasser les socialistes dont peut-être dans un coin de sa tête, il doit se souvenir qu'ils étaient en lien avec Hébert et ceux qui ont assassiné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht.
Oui, j'étais trotskiste. Je l'ai été 3 ans et je suis très reconnaissant aux trotskistes de tout ce qu'ils m'ont appris.
Jean-Luc Mélenchon.
D'abord, un inépuisable sentiment de résistance intellectuelle. Ensuite, un vaccin contre l'esprit de système qui aurait pu me faire basculer du côté des systèmes clos qu'était le communisme d'État. Ils m'en ont protégé.
Après, toute la question qui lui est posée et qui a été souvent posée aux militants trotskistes, c'est de savoir s'ils pouvaient prendre en charge l'ensemble de la société française, sans apparaître comme les entraînant dans une aventure qui, à chaque fois, malheureusement, et c'est l'expérience qui nous le dit, eh bien, dès qu'elle a été menée avec un mépris total des formes de démocratie dite bourgeoise, eh bien, ont amené à une catastrophe politique.
Je marche seul dans Buenos Aires. Personne ne demande qui je suis. Dans cette ville, dos à la mer, qui vibre encore de l'Italie. Je marche seul dans Buenos Aires. Je sais que je n'ai rien compris. Mais cette odeur m'est familière, comme un secret jamais écrit. Buenos Aires, un port à l'envers, où les marins restent à leur bord. Les Argentins rêvent d'hier, et puis des chants du mal d'or. Dans le carré toutes tes artères américaines dans l'esprit, des transversales singulières me disent André, si tu me suis, je te prouverai le contraire. Si tu pénètres dans ma nuit, dans Buenos Aires, je ne veux que personne ici m'explique ce que je dois y faire. Je sais pourquoi je suis ici. Je marche seul dans Buenos Aires, qui s'étale comme la lune, en croissant au bord de la mer, et se réfugie dans la brume.
Le piéton de Buenos Aires, Bernard Lavilliers. Enquête de politique, vous pouvez podcaster toute la série du mois de mai trotskiste. Et d'ailleurs, vous pouvez podcaster tous les numéros d'Enquête de politique. Il y en a déjà presque une quarantaine. Hein. Ça fait une belle petite collection de ismes. On part maintenant au Sénat, un lieu où ne souffle pas vraiment le vent de la révolution, pour rencontrer Laurence Rossignol. Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice socialiste. Alors, sénatrice socialiste, ça pose, c'est vice-présidente du Sénat. Vous nous recevez ici dans un immense bureau plein de dorures et vous êtes une ancienne trotskiste. Alors, expliquez-nous ce qui n'est peut-être pas un paradoxe d'ailleurs.
Ah ben, c'est sûr que quand je suis rentrée en politique, j'étais post-ado, je dirais maintenant. Jamais j'ai pensé qu'un jour je me retrouverais vice-présidente du Sénat. Moi, je suis d'une génération où, quand on rentrait en politique, surtout à l'extrême gauche, on n'avait pas de plan de carrière. Les plans de carrière sont venus plus tardivement à gauche. Et même chez les trotskistes, ils sont venus plus tardivement. Et c'est pas une carrière, mais au départ, mon engagement dans une organisation trotskiste, puisque j'étais à la Ligue communiste révolutionnaire, à la LCR, eh ben, il est comme souvent le produit à la fois d'un moment, d'une rencontre, d'opportunités. Quand on a 17 ans, on milite avec ceux qu'on rencontre. Moi, j'étais dans un lycée, j'avais des profs à la Ligue, des profs qui étaient trotskistes, et des camarades d'école qui étaient lutte ouvrière. Et lutte ouvrière, j'ai vu tout de suite que c'était pas pour moi. En revanche, j'avais un prof de lettres, un prof d'histoire géo, dont je connaissais les opinions politiques, qui étaient des brillants enseignants. Et donc ça m'a d'abord intellectuellement fascinée. Et puis ensuite, j'étais dans une famille à dominante communiste. L'opposition évidente, c'est le trotskisme. Et très vite, je me suis construite à la fois dans un enracinement à gauche très clair, mais en opposition aussi au stalinisme et au régime soviétique.
Là, vous aviez 17-18 ans. Quelle a été la progression de vos opinions? Comment vous êtes-vous recentrée?
J'ai eu deux moments de rupture successifs avec la Ligue sur les sujets qui, en fait, sont toujours ceux qui, aujourd'hui, me font être à grande distance d'une partie de la gauche ou de l'extrême gauche. Le premier, ça a été l'Iran. Le soutien au moment de la révolution islamiste 79 qu'on apporte à l'Ayatollah Khomeini parce que il est l'opposant à la dictature du Shah.
Alors ça, c'était le côté tiers-mondiste. Et l'Ayatollah Khomeini était en France, à Neuf-le-Château, et puis c'était un réfugié, c'était un vieillard qui avait l'air sage, et une grande partie de la gauche pensait que c'était une sorte de Gandhi iranien. Vous n'achetiez pas ça déjà?
Je n'achetais pas l'idée du Gandhi iranien, je n'achetais pas l'idée qu'une révolution démocratique pouvait être conduite par un religieux. Et ma deuxième rupture, c'est sur ce qu'il fallait penser de Solidarność en Pologne. Et c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que je n'achète pas l'idée que de transférer à une opposition, fût-elle démocratique, mais totalement religieuse, catholique, la tâche d'affronter les régimes staliniens, puisse conduire à des démocraties heureuses. Et donc, dans ces deux affaires, ce qui pour moi m'a frappé, c'était la facilité avec laquelle on était prêt à soutenir n'importe quel opposant, fût-il religieux, à deux dictatures très différentes, sans du tout se préoccuper de ce que signifiait une révolution conduite au nom de valeurs religieuses. Et je savais déjà que ces révolutions tournerait mal pour les femmes. Et je me suis pas trompée. En Pologne, ça a été la régression absolue avec l'interdiction et la criminalisation de l'IVG. Et en Iran, c'est la révolution iranienne aujourd'hui qui est conduite par les femmes contre un régime qui les a voilées, cachées, persécutées.
Pourtant, la LCR se targuait plutôt d'être la branche du trotskisme la plus ouverte au mouvement de société et notamment à celui des femmes. Et juste avant de vous rencontrer ici, j'ai rencontré et interviewé Pierre-François Gron qui nous expliquait qu'il est entré en trotskisme par Solidarność et en soutien à Solidarność, et justement parce que la LCR soutenait cet aspect de la révolution polonaise.
Moi, effectivement, je doute au moment où il adhère, lui. Mais par ailleurs, ce que vous dites est vrai sur la LCR, ce que moi j'ai aimé plus que tout à la LCR et qui est l'organisation que j'ai choisie, néanmoins. Parce qu'il y avait du choix quand même chez les trotskistes à l'époque et à la fac, quand j'étais étudiant. Toute l'offre était exposée dans le hall du restaurant universitaire. La Ligue, c'était la seule organisation trotskiste qui était liée au mouvement féministe, puisqu'on était à la fois militante, pétroleuse, MLF, LCR, qui était en lien avec les organisations écolo, et en particulier le mouvement antinucléaire. En plus, moi, j'étais dijonnaise, donc tout près de Besançon, il y avait l'IP.
Depuis le 17 avril, le personnel, refusant le licenciement de l'usine et son démantèlement, est en lutte avec la direction. Au mois de juin, il décide de continuer à fabriquer et à vendre des montres pour exercer une pression sur les pouvoirs publics et assurer les salaires. Autogestion, révolution, utopie.
Il n'est pas question de brader, il n'est pas question de solder les montres, il est question de continuer la fabrication comme par le passé, sans, disons, les responsables qui nous ont abandonnés.
Il y avait le conflit libre, donc on était très intéressés et actifs. Enfin, on pensait qu'on était actifs dans le conflit libre. En fait, on n'était pas du tout. Mais on croyait, on se donnait beaucoup d'importance dans ce conflit. Donc, la Ligue avait ça de très, très séduisant. Le combat des homosexuels également, c'est que la Ligue était une organisation très poreuse au mouvement de société. C'est d'ailleurs ce qui caractérisait aux yeux des lambertistes les pablistes, c'est que les pablistes étaient des éponges d'un certain point de vue. La Ligue absorbait tout ce qui se passait dans la société. Et c'est une organisation qui était beaucoup plus épanouissante pour les femmes en particulier, que n'étaient les autres organisations trotskistes. Les Lambertistes, c'était d'affreux machos, qu'ils revendiquaient, d'ailleurs, et à Lutte ouvrière, ils considéraient qu'il n'y avait pas de raison de distinguer les femmes et les hommes, tout ça c'était le peuple, et c'était pareil. En ce qui concerne ensuite le fait que je sois passée du trotskisme au Parti socialiste, il y a quand même un événement dans nos vies à tous, c'est le 10 mai 81. Le 10 mai 81, la gauche arrive au pouvoir, et elle y est arrivée par un processus démocratique. À ce moment-là, bon nombre quand même de trotskistes se demandent si le Grand Soir est toujours d'actualité. Pas simplement parce qu'il n'est pas possible, mais aussi parce qu'il n'est pas souhaitable. Moi, je réfléchis différemment, et en particulier, j'observe que la manière dont on conduit les processus de transformation des sociétés détermine le type de société qu'on veut construire. Et que quand on prend le pouvoir par la violence, ou quand on prend le pouvoir en dehors d'un processus démocratique, on exerce le pouvoir dans la violence sans processus démocratique. Et c'est ça pour moi, à un moment donné, qui me fait considérer que c'est dans une organisation qui va se plier à la démocratie électorale que pourront se conduire les processus de transformation de la société.
Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous revendiquez toujours d'avoir été trotskiste? Est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir été? Quelles sont les qualités que vous vous attribuez et qui viennent du trotskisme?
Moi, je n'ai aucun regret d'avoir été trotskiste. Ça a été une exceptionnelle école de formation. Surtout que j'ai continué après au Parti socialiste avec des gens qui venaient du trotskisme. On a fait SOS Racisme, on a dirigé des organisations syndicales, on a fait un courant dans le Parti socialiste avec des gens qui avaient été matricés par le trotskisme. Et donc qui continuaient d'agir avec les références que le trotskisme leur avait données. Donc mon parcours trotskiste est bien plus long que mon temps passé dans une organisation trotskiste. Ce que aujourd'hui j'identifie dans mon histoire avec le trotskisme, c'est d'abord donc une école de formation du mouvement social, une école de formation historique qui permet quelque chose qui est pour moi essentiel, c'est de resituer ce que l'on vit dans un contexte international. Une réunion de cellules de la Ligue, ça commençait par un point sur la situation internationale. On en savait autant sur ce qui se passait en France ou en Amérique latine, ou au Vietnam. Tout était le développement des processus révolutionnaires vus de manière combinée. Et ça, c'est une école de pensée. Et aujourd'hui encore, j'entendais aujourd'hui un débat sur y a-t-il une crise démocratique en France? Le débat était purement franco-français. Non, le débat sur la démocratie, c'est un débat mondial, c'est un débat qui est lié à la question économique et sociale. C'est ça aussi le trotskisme, c'est de toujours relier entre elles l'aspect international, la question économique, la question sociale, la question démocratique. C'est la dialectique, l'interaction permanente de tous ces champs. Et j'observe que ceux qui n'ont pas été formés comme ça ont des pensées que je trouve cloisonnées. Ils pensent tantôt l'un, tantôt sur un sujet, tantôt sur un autre, sans en voir la combinaison, l'imbrication. Alors par ailleurs, on se reconnaît les uns les autres, on se flaire. Voilà, quand il y en a un dans une salle, je le reconnais tout de suite parce qu'il y a des tics de langage, d'expression, des manières d'exprimer les choses. Et aujourd'hui encore, quand j'essaye de penser la politique, je la pense avec ce que le trotskisme m'a appris. Je pense que par exemple, si aujourd'hui je considère que la question de bâtir des compromis est une question essentielle, c'est aussi parce que je sais que les processus de transformation se font par étapes. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un projet politique qui soit capable, dans un contexte social qui est totalement différent, d'une sociologie de nos pays qui est totalement différente de celle au moment où Trotsky pensait et écrivait, mais qui soit capable d'agglomérer l'ensemble des classes sociales de façon à emmener tout le monde vers des processus d'évolution et de transformation qui, par étapes, vont construire des adhésions et des majorités.
France Inter, enquête de politique, Thomas Legrand.
Pierre-François Gron, est-ce que le trotskisme peut encore être une inspiration politique aujourd'hui?
Ouais, je crois qu'il faudrait parler plutôt des trotskismes, parce qu'il y a une certaine diversité.
Pierre-François Gron, professeur d'histoire, ancien de la LCR, proche de la députée insoumise Clémentine Autain.
Le trotskisme historique, c'est un courant politique qui a été à la fois anti-nazi, anti-impérialiste, anti-stalinien, et donc qui permet de regarder le XXe siècle et toutes les horreurs du XXe siècle, je pense aux camps de concentration, au goulag soviétique, aux crimes de Mao Tse-Tung, à la décolonisation, la guerre d'Algérie, j'en passe. On peut le regarder d'une certaine manière avec un certain surplomb et avec une certaine fierté, parce que globalement, les trotskistes ont été du bon côté, voilà, du bon côté de la barricade à chaque fois. Ensuite, les organisations...
À chaque fois, attendez. Vous-même, vous venez de me faire la liste de... du bon côté de la barricade, et à chaque fois c'est anti.
Oui, c'est anti.
Anti. Ouais. Pour créer un mouvement politique, il faut aussi du pro. Être trotskiste aujourd'hui, Pierre-François Gron, c'est être pro quoi ?
Et être trotskiste aujourd'hui, c'est un héritage. Les organisations trotskistes aujourd'hui, elles ont tendance à répéter un catéchisme des années 20 et 30 qui est anachronique par rapport à la période d'aujourd'hui. Edwin Plenel parle souvent de trotskisme culturel, c'est-à-dire d'une capacité à avoir digéré l'histoire. Vous voyez, vous dites anti, mais parce que l'histoire du XXe siècle, pour la gauche et pour le mouvement ouvrier, c'est souvent une tragédie. C'est une histoire de vaincus. Moi, je préfère, du point de vue de ma filiation historique, d'être du côté des vaincus de la guerre d'Espagne, des camps de concentration nazis ou du stalinisme, et puis en même temps de me dire, l'émancipation, une société égalitaire, une société émancipée, une société qui se bat pour l'égalité homme-femme, qui cherche à décoloniser nos pensées, une société démocratique, mais avec une conception de la démocratie large, et peut-être une conception démocratique plus forte que celle qu'avaient les révolutionnaires russes du temps de Lénine et Trotsky, qui avaient tendance à sous-estimer cette question démocratique.
Est-ce que vous voyez dans les hommes politiques aujourd'hui qui ont des responsabilités, ou les hauts fonctionnaires qui ont des responsabilités, vous arrivez à repérer ceux qui ont été trotskistes par leur façon de parler ou par leurs références ?
Oui, si on fait un petit peu d'archéologie trotskiste, on arrive à reconnaître les courants trotskistes. Il y a une culture politique, il y a une culture stratégique, il y a un sens du rapport de force, d'essayer de gérer cette tension entre la radicalité, on veut changer le système, et puis en même temps s'adresser au plus grand nombre. J'arrive à reconnaître certains, y compris dans les nuances plus ou moins libertaires et plus ou moins autoritaires des uns et des autres.
Vous arrivez à savoir, lui, il a dû être à l'OCI,
oui.
Et lui, il était plutôt LCR, plutôt...
Oui, parce que par exemple, la LCR, bon, j'en viens, donc évidemment, moi je suis...
Vous les connaissez tous.
Voilà, je les connais, et puis je suis un peu partial sur le sujet, mais la LCR, c'est un courant qui se réclamait à moitié du trotskisme, et qui est à moitié de 68 et des aspirations anti-autoritaires de mai 68. Les deux autres courants trotskistes, disons, ont moins été pénétrés par les aspirations anti-autoritaires de mai 68, pour le dire le plus poliment et le plus gentiment possible.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre-François Gron, pourquoi la LCR, finalement le courant qui était le vôtre, bon, vous êtes historien mais vous êtes aussi trotskiste, pourquoi la LCR s'est transformée en NPA et pourquoi ce sigle qui ne fait plus référence au trotskisme ?
Je crois que c'est une bonne chose qu'on a faite collectivement. Et il me semble que dans l'histoire de la LCR, bon, j'étais un des responsables à l'époque, quand on a dissous la LCR en 2009, c'est la seule décision de l'histoire de la LCR qui a été prise à l'unanimité, parce que la LCR était plutôt assez connue pour des débats démocratiques.
La dissolution est la seule décision prise à l'autodissolution. Ça dit beaucoup du trotskisme.
Et en fait, je crois parce qu'on avait compris collectivement, quelles que soient nos trajectoires différentes les uns les autres, Olivier Besancenot a la sienne, moi j'ai la mienne par exemple, on avait compris qu'on avait changé de période politique, de période historique, que le cycle de la révolution d'octobre, le XXe siècle, c'était terminé, et qu'on ne pouvait pas construire des petites organisations révolutionnaires, trotskistes ou pas trotskistes, d'ailleurs, autour d'un espèce de catéchisme quand même, trotskiste, hérité des années 20 et 30, et qu'il fallait intégrer les formes de l'anticapitalisme et d'un nouveau socialisme. Moi, je parle d'écosocialisme, par exemple.
Notamment l'écologie qui vient tout bouleverser.
Hein, d'où le mot écosocialisme, parce que c'est vrai que l'écologie vient bouleverser les conditions du socialisme et la transformation de la société, et donc ça implique un changement de stratégie, un changement d'organisation, et c'est bien d'avoir fait ça. Après, le NPA, pour moi, c'est pas une expérience extrêmement réussi, parce que sont venus s'inviter au NPA des petits groupes qui avaient une nostalgie du fonctionnement des petites organisations trotskistes, et s'est retrouvé au NPA tout ce que le trotskisme a fabriqué de micro-courants dans le monde entier quasiment, ça n'a pas été extrêmement formateur. Bon, mais en revanche, il y a des gens très bien, il y a des militants qui sont absolument remarquables au NPA, qui réfléchissent à la transformation de la société, qui participent aux luttes actuelles, qui partagent ou pas ce que je viens de vous vient de vous dire, mais c'était bien de faire une espèce de rupture symbolique. Voilà, faut pas, on n'est pas dépositaire d'une espèce de culture qui nous viendrait de Léon Trotsky, de la 4e internationale, et qui impliquerait de traverser les siècles des siècles avec le même programme, la même stratégie. C'est absurde quand on fait de la politique. J'irais presque même, c'est un peu anti-trotskiste en fait, parce que le trotskisme
lui-même a évolué. Donc.
Voilà, et puis c'est même une école de l'agilité en politique. D'une certaine plasticité stratégique qui fait qu'il faut, il faut intégrer les coordonnées nouvelles, le féminisme, l'écologie, la place du travail dans la société qui a changé, la critique de la société industrielle, de la technique, bon, voilà, des choses qui sont pas le monde de Trotsky, pas le monde des années 20 et des années 30. Donc ça implique de verser peut-être notre histoire, notre culture dans la reconstruction plus globale d'une gauche émancipatrice.
Voilà. On a l'impression que dans la culture trotskiste, dans l'héritage trotskiste, il y a deux parties. Il y a la partie un peu plus lumineuse, plus positive. Les anciens trotskistes ont une grande culture politique, une agilité, un sens stratégique, une ouverture sur tous les nouveaux mouvements de la société. Et puis, il y a une version un peu plus sombre qui est cette culture de l'assiégé, cette paranoïa quelquefois, ce sentiment un peu groupusculaire et sectaire même. Tout ça existe et cohabite. On arrive à faire le tri ou pas quand on est ancien trotskiste?
Vous avez dit paranoïaque. Un paranoïaque peut avoir été persécuté, hein, et le trotskisme a été persécuté. Donc ça s'explique historiquement.
Beaucoup de paranoïaques ont quelques raisons dans leur passé, mais ouais. De là à le rester.
Non, mais maintenant, il n'y a plus aucune raison. Voilà. Il n'y a plus aucune raison, et puis y compris même les discussions avec les communistes, ceux des partis communistes, qui la plupart d'entre eux ne se revendiquent plus du stalinisme. Bon, fait que ça change totalement. Enfin, les barrières sont tombées. Donc de ce point de vue-là, non. Je pense que cultiver son petit jardin trotskiste, trotskoïde, aujourd'hui, ça n'a pas véritablement de sens. Il faut verser dans le pot commun de la reconstruction de la gauche, d'un mouvement émancipateur, ce qu'a été le trotskisme dans ses parties lumineuses et ses parties, oui, un peu plus forteresse assiégée, comme vous avez dit. Mais moi, j'aime pas entendre la définition du trotskisme comme une espèce d'école de la manipulation. C'est pas vrai. Certains ont vécu l'entrisme, la manipulation, le fait d'essayer de tirer les ficelles. Je pense que Lionel Jospin et Jean-Luc Mélenchon existent en tant que tels comme personnages. Ils n'ont pas été des marionnettes d'une organisation trotskiste à un moment ou un autre de leur vie. Je pense qu'ils existent, ils ont leur propre trajectoire. Moi, ce que je retiens de la culture trotskiste, oui, c'est une ouverture sur le monde, c'est une compréhension des enjeux internationaux, c'est d'aller rechercher tout ce qui permet de lutter contre l'exploitation et les différentes formes d'oppression. Bon, est-ce que maintenant, il faut maintenir à tout prix une frontière entre le trotskiste ou les trotskistes et le reste? Je crois pas. Je crois qu'il faut mettre tout dans le pot commun.
France Inter, enquête de politique.
Ça veut dire quelque chose, Jeannette Abel, d'être trotskiste aujourd'hui?
Non, pour moi, ça veut dire une seule chose, c'est reprendre les analyses de Léon Trotsky et regarder à la lumière de ces analyses ce qui est en train de se passer sur la scène internationale aujourd'hui. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, prenons Poutine et la Russie aujourd'hui. Si vous lisez ce qu'a écrit Trotsky sur le stalinisme, la dégénérescence de l'Union soviétique, vous comprenez après ce qui s'est passé et vous comprenez y compris Poutine aujourd'hui. Vous trouvez dans ces analyses l'origine, y compris la manière dont cette bureaucratie monstrueuse a pu se construire. Et Poutine, il est l'héritier de ça. C'est un KGBiste. C'est une vraie décomposition de la révolution russe qui a eu lieu. Et ça, c'est parfaitement lumineux dans les livres de Trotsky. Alors, dans ce sens-là, oui, pas dans l'identification à un courant. Non, ça non.
C'était Enquête de Trotskisme, réalisée par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard. On se retrouve samedi prochain, ou demain soir d'ailleurs, puisque Enquête de Politique est rediffusée le dimanche après le journal de 23h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.